journal, bonjour Hélène Roussel.
Bonjour.
À la une ce matin, plus de moyens dans les hôpitaux plutôt que de fermer les bars et les restos. C'est le coup de gueule du premier adjoint à la mairie de Marseille, vous l'entendrez. Et puis une question également ce matin sur l'impact psychologique de la crise. On posera la question à notre invité ce matin, 8h20, ce sera le professeur Antoine Pellissolo, chef du service psychiatrie de l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Les autres titres, Hélène.
Le Covid qui a bon dos, des escrocs profitent des entreprises en détresse pour blanchir l'argent sale. Une cellule de renseignement spéciale pour les traquer a vu le jour, c'est une info France Inter. Et puis une catholique traditionnaliste, anti-avortement et pro-arme à feu pour remplacer une grande féministe progressiste à la Cour suprême des États-Unis, le choix hier soir de Donald Trump. Enfin la PAC, renégocier les citoyens pour la première fois consultés.
France Inter.
Dernier jour pour aller au restaurant ou boire un verre au bar. Aix-en-Provence, Marseille, en alerte Covid maximale. Les cafés, restos doivent tous fermer leurs portes complètement ce soir, minuit et pour 2 semaines. Les professionnels révoltés contre ces consignes. Mais il n'y a pas que, les élus aussi. Pour Benoît Payan, premier adjoint à la mairie de Marseille, il faudrait déjà commencer par sauver l'hôpital public.
On a un hôpital public à Marseille en déshérence. Et la seule réponse du gouvernement, plutôt que de mettre des moyens à l'hôpital, plutôt que d'ouvrir des lits, c'est de fermer les restaurants. En effet, on a des réanimations qui sont non pas à saturation, mais qui ont vu une augmentation, et c'est normal. On a vécu un pic épidémique, comme toutes les villes du pays, nous avec quelques jours d'avance. On se retrouve donc avec des réanimations qui sont en souffrance. Qu'est-ce qu'on dit à ce gouvernement ? La question, c'est pas de fermer un restaurant, mais ouvrez-nous des lits de réa. Puisqu'il y a des gens en réa, puisqu'il y a des gens malades, ouvrez des réas, ne fermez pas les cafés, les restaurants. On l'entend, pourquoi pas, mais d'abord on ouvre des réas.
La crise sanitaire encouragerait-elle l'arnaque et la fraude ? Certains joueraient les bons samaritains pour prendre le contrôle de commerces ou de sociétés en difficulté. Un bon moyen ensuite pour blanchir l'argent sale, sans parler des escroqueries liées aux aides versées par l'État. Une structure de renseignement spécialement dédiée au blanchiment a donc été créée récemment. C'est une première en France et c'est une information France Inter, signée Emmanuel Leclerc.
Un risque monstrueux d'une ampleur inédite, prédit un expert sur le blanchiment de l'argent sale. Et il y a déjà eu des alertes rouges dans plusieurs pays, en Amérique du Sud, en Italie. Des propositions de rachat de commerces et de sociétés en difficulté avec du cash, beaucoup de cash. C'est exactement ce que craignent depuis des mois les services de police judiciaire au sein de l'Union européenne.
Il faut éviter évidemment qu'il y ait une mainmise faite par la criminalité organisée dans l'économie légale. C'est ça notre peur la plus forte à l'heure actuelle.
Corinne Berthoud est l'adjointe de la sous-direction criminalité financière de la police judiciaire. Pour l'instant, il n'y a pas eu en France de cas concrets de blanchiment, de rachat de sociétés douteux liés à la crise actuelle, mais...
Je pense que ces phénomènes-là vont surgir plutôt en fin d'année, début d'année prochaine. On voit un peu les modus operandi qui vont se dégager. Bien sûr, il y a les petites mains, les mules financières, tout ce cheminement qui se fait de frontière en frontière.
C'est le CIRASCO, le service de renseignement anti-criminalité organisée, qui a été chargé de cette mission. Côté police, cet été, tous les protocoles de détection du blanchiment de l'argent sale ont été renforcés pour des échanges d'informations avec Bercy et tous les autres services européens concernés.
Et plus de 2000 faits d'escroquerie ont déjà été signalés à la police. Il y en aurait pour des millions d'euros. Le Covid, cette fois à l'étranger, avec la recrudescence des cas à Bruxelles, bars et cafés, baisse le rideau à 23h à partir de demain lundi. Et puis à New York, ancien épicentre de l'épidémie aux États-Unis, plus d'un millier de contaminations en 24h. On n'avait pas vu ça depuis le mois de juin.
On reste aux États-Unis, Hélène, avec Donald Trump qui, rien d'étonnant, passe encore une fois en force.
Et nomme comme juge à la Cour suprême pour remplacer la doyenne grande féministe Ruth Bader Ginsburg, morte la semaine dernière. Une catholique traditionnaliste, anti-avortement et pro-arme à feu, la très conservatrice Amy Coney Barrett. Le Sénat, majorité républicaine, doit encore valider ce choix, mais sans attendre. Militants catholiques et chrétiens évangéliques se sont réunis sur les marches de la Cour suprême pour accueillir l'annonce du président hier soir. C'est un reportage du correspondant de France Inter à Washington, Grégory Phillips.
We come to you, God, and ask.
En attendant la nomination de cette nouvelle magistrate, il prie à genoux sur les marches de la Cour suprême, les mains tendues vers le ciel pour que Dieu leur accorde un troisième juge conservateur. Puis l'annonce arrive depuis la roseraie de la Maison Blanche.
Judge Amy Coney Barrett.
Ce sera bien Amy Coney Barrett, professeure de droit de 48 ans, connue notamment pour ses positions anti-avortement. Je sais qu'elle a 7 enfants, se félicite Cindy, venue exprès de Saint-Louis, Missouri. C'est une chrétienne fervente, une bosseuse. Elle représentera très bien notre pays. Dans la foule, beaucoup de chrétiens évangéliques et puis aussi des étudiants catholiques venus avec leur enseignant, Michael New. Nous prions depuis 47 ans pour renverser l'arrêt Roe versus Wade qui avait légalisé l'interruption volontaire de grossesse. C'est une opportunité unique pour nous, les pro-vie, de renverser cet arrêt. Donald Trump souhaite maintenant que la nomination d'Amy Coney Barrett soit validée par le Sénat le plus vite possible, idéalement pour lui, avant la présidentielle du 3 novembre. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et si le Sénat confirme Amy Coney Barrett dans ses fonctions, alors ils ne seront plus que 3 juges sur 9 dans le camp progressiste. Donald Trump aura ancré la Cour suprême dans le conservatisme pour de bon et pour longtemps, car ses juges sont nommés à vie. L'impasse politique au Liban. Le Premier ministre Mustapha Adib récusé hier au bout d'un mois seulement. Impossible de former un gouvernement. Le président Michel Aoun va consulter pour désigner un successeur, alors qu'Emmanuel Macron doit s'exprimer ce soir, 18h, dans une conférence depuis l'Elysée. Si les promesses ne sont pas tenues d'ici octobre, il y aura des conséquences, avait averti le chef de l'État au début du mois à Beyrouth. Emmanuel Macron qui prend position aussi sur ce qui se passe en Biélorussie. Le président Loukachenko doit partir et il dénonce un pouvoir autoritaire incapable d'accepter la démocratie. Interview d'Emmanuel Macron donc ce matin dans le journal du dimanche, à la veille de son premier déplacement en Lituanie et en Lettonie. Les États baltes qui comptent justement sur le soutien de la France pour faire face aux pressions russes. À l'étranger toujours, votation populaire en Suisse aujourd'hui sur la libre circulation des personnes avec le reste de l'Union européenne ou encore sur la création d'un congé paternité. On vote aussi en France, deuxième tour des élections législatives partielles dans le Maine-et-Loire, le Haut-Rhin, les Yvelines, le Val-de-Marne, la Seine-Maritime et la Réunion. Élections encore sénatoriales cette fois ce dimanche. La moitié des sièges doit être renouvelée.
Il y a eu la Convention citoyenne pour le climat. Eh bien voici l'Assemblée pour l'agriculture.
140 personnes tirées au sort, rassemblées tout ce week-end pour faire des propositions sur la prochaine PAC, la politique agricole commune, réformée tous les 6 ans. Pour la première fois, donc, les citoyens, Manuel Ruffez, sont appelés à donner leur avis.
Avant cette assemblée, il y a déjà eu une première phase de consultation en ligne qui a attiré des centaines de milliers d'avis de citoyens qui se sont prononcés pour une PAC qui assurerait un revenu aux agriculteurs en prenant plus en compte l'environnement et le bien-être animal. Mathieu Courgeot est éleveur laitier en Vendée, mais aussi président de la plateforme Pour une autre PAC. Et pour lui, sans conteste, il est important que les citoyens aussi se mêlent d'agriculture.
Nos concitoyens, c'est d'abord nos voisins qui vivent sur nos mêmes territoires. C'est aussi nos clients, c'est eux qui achètent nos produits. Et c'est aussi eux qui financent la PAC via leurs impôts. Donc c'est vraiment primordial qu'il y ait ce dialogue qui soit reconstruit entre ces deux mondes qui parfois s'éloignent.
Consultation en ligne, assemblée citoyenne, débat dans toute la France pour une restitution à la fin de l'année et réponse du gouvernement attendue en début d'année prochaine. Avec beaucoup d'espoir.
On est quand même relativement inquiet du sort qui a été réservé à la Convention citoyenne sur le climat où il y a, malgré l'engagement d'Emmanuel Macron à reprendre sans filtre les mesures proposées par la Convention citoyenne pour le climat, on voit que c'est une question qui est un petit peu compliquée. Et donc voilà, nous, notre demande, elle est vraiment de retravailler ces questions-là et que l'avis des citoyens soit vraiment pris en compte.
La France devra ensuite porter le message au niveau européen.
Manuel Ruffez, contre les passoires thermiques, voici l'aide à la rénovation énergétique réservée jusqu'ici à la moitié des ménages les moins aisés. Elle sera bientôt accessible à tous, annonce ce matin de la ministre du Logement, Emmanuel Wargon, dans la presse. Eux aussi ont été tirés au sort. Les spectateurs de Roland-Garros, le tournoi de tennis commence aujourd'hui avec pas plus de 1000 spectateurs par jour. Enfin, la performance cette nuit sur les parquets de basket américains. Les Lakers de Los Angeles se sont qualifiés pour la finale de la NBA, 32e finale de leur histoire. Et ce sera face aux gagnants du match du jour entre Miami et Boston.
C'était le journal d'Hélène Roussel.